Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Merci Rémi. Le thème est un petit peu fort. Alors j'espère que vous allez bien en cette dernière de la semaine. C'est Marianne Paquette et oui, pour vous accompagner au cours de cette émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Aujourd'hui, je pense qu'il est légitime de dire que le traitement de canal, ça a mauvaise réputation. À savoir que c'est extrêmement douloureux, désagréable, inquiétant aussi, dit-on. Mais en quoi ça consiste, le traitement de canal, oui, et comment on peut le prévenir? J'en parle avec le docteur Salam Sakal en deuxième partie d'émission, lui qui est chef du service clinique d'endodontie et professeur titulaire à la faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal. Mais d'abord, est-ce qu'elle est là, docteur Kazowski? Donc, on est là pour parler de rougeole aujourd'hui. La rougeole qui est une maladie qui a été déclarée éliminée au Canada et aux États-Unis, et ça, au début des années 2000. Toutefois, les cas de rougeole ont fait pas mal jaser parce qu'il y a à peu près une dizaine qui ont été répertoriés au Québec dans les dernières semaines, tout ça en lien avec l'éclosion du virus en Californie. Ça a attiré l'attention des médias, on en a entendu beaucoup parler, mais également ça a suscité l'inquiétude du grand public, des familles, des parents. Comment on peut mieux connaître, apprendre à connaître la rougeole? Qu'est-ce que c'est? Comment on peut prévenir? J'en parle avec Dr. Alexandra Kozowski, médecin responsable à la direction de santé publique de l'Agence de santé de Montréal à l'instant. Bonjour, Dr. Kozowski.
Bonjour.
C'est pas la première fois au Québec que l'on s'inquiète en lien avec la rougeole. En 2011, en 2014, il y avait eu également des cas répertoriés.
En fait, en 2011, surtout, on a eu une éclosion, effectivement, de 700 cas dans la province et ça a suscité, donc, effectivement, toute une opération de mobilisation dans les écoles. Il y a une opération qu'on appelait Opération Rougeole où on est passé dans toutes les écoles du Québec pour vérifier les carnets de vaccination des élèves et de faire la mise à jour pour s'assurer d'augmenter et d'avoir une couverture vaccinale adéquate.
Mais autant en 2011 qu'en 2014, ça s'était rétabli finalement la situation, ça s'était réglé.
Écoutez, c'est-à-dire que la rougeole, on prend toujours ça au sérieux.
Ouais.
Et comme vous l'avez bien mentionné, au début des années 2000, c'est une maladie qu'on pensait éliminer. Donc, les efforts sont mis pour garder les couvertures vaccinales pour qu'il y ait une circulation la moindre possible dans le ici au Québec.
Mm-hmm. Et en fait, c'est inquiétant, oui, et assez surprenant quand on sait qu'une maladie a été éradiquée et qu'elle ressurgit 10-15 ans plus tard. Docteur Kozowski, c'est quoi la rougeole?
Mm-hmm. Écoutez, premièrement, elle n'était pas éradiquée, elle était éliminée, mais juste pour dire, mais la rougeole, c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse. C'est une maladie qui était généralement attrapée par les enfants avant les périodes de vaccination. Maintenant, c'est une maladie qui va vraiment atteindre toute personne qui n'est pas protégée, donc généralement les gens non vaccinés ou sous-vaccinés ou qui ne peuvent pas développer d'immunité. C'est une maladie qui se présente avec donc de la forte fièvre, de la toux et des éruptions cutanées, donc des rougeurs sur le corps qui sont assez caractéristiques de la maladie.
Mm-hmm. Souvent, on est mélangé entre varicelle, ce qu'on appelle la picote ici, et la rougeole. Est-ce que c'est des maladies qui ont des liens ensemble?
Ce sont des maladies qui initialement étaient qu'on appelait des maladies infantiles. Donc, c'est des maladies infectieuses aussi qui se transmettent assez facilement. Mais il y a une différence assez importante, c'est que la rougeole peut entraîner des complications plus sévères. Mmh. C'est une maladie qui avait été, comme vous l'avez dit, donc éliminée. Et donc, le vaccin, ça fait plus de 30 ans qu'on donne le vaccin contre la rougeole et que c'est inclus dans le programme de vaccination à deux doses depuis 1996, tandis que la varicelle, c'est quelque chose de plus récent.
OK. Est-ce que ça pique? bon, comment, si on, je me mets dans la peau d'un parent qui nous écoute, comment il peut observer des signaux chez son enfant?
Oui. Écoutez, c'est quand même... le plus important, c'est qu'il y a de la fièvre, c'est une rougeur caractéristique. Et il peut avoir donc les yeux rouges, il peut avoir aussi ce qu'on appelle avoir mal quand on voit de la lumière. Donc, ça, c'est, ce sont les symptômes. Et de toutes les façons, c'est quelque chose qu'il faut que ce soit diagnostiqué, donc par un professionnel de la santé. Donc, si jamais une personne était inquiète que son enfant a la rougeole, ce serait important donc de consulter un professionnel, mais d'avertir évidemment avant, donc la clinique ou l'endroit où la personne se rend pour s'assurer que la clinique prenne les mesures adéquates pour empêcher la transmission.
Bien sûr, oui. Mm-hmm. Et au même titre, si on a d'autres enfants à la maison, oui, ou si encore notre enfant va à l'école ou à la garderie, on le garde à la maison et on évite le contact avec les frères et sœurs?
Absolument. Si on est inquiet de symptômes de rougeole, on évite le contact. Mais je retournerai, je pense que ce qui est important vraiment à retenir, c'est que oui, c'est une maladie très contagieuse, mais on a un vaccin très efficace. Donc, le vaccin qui est disponible et qui fait partie du programme d'immunisation régulier, donc qui se donne à 12 mois et à 18 mois, c'est un vaccin qui, à deux doses, a plus de 95% d'efficacité. Donc, un enfant qui est vacciné à ces deux doses, on n'est pas inquiet. On n'est pas inquiet pour cet enfant-là.
Mm-hmm. C'est très contagieux, vous l'avez dit, Dr Kosowski. Ça s'attrape comment? Est-ce que c'est par la toux, par exemple? Ou...
Tout à fait. Écoutez, c'est une des maladies les plus contagieuses qu'on connaisse. Donc, ça se transmet même au niveau de la projection des gouttelettes. Ça reste dans l'air. Donc, une personne qui n'est pas protégée, qui n'est pas vaccinée ou qui n'a pas fait la rougeole, qui est en contact avec un cas, a toutes les chances de développer la maladie. Donc, par contact direct, mais même juste être dans la même pièce qu'une autre personne qui a de la rougeole, ça peut se transmettre.
Donc, ça peut y aller comme une traînée de poudre, là?
Tout à fait, oui. Pour les gens qui ne sont pas protégés.
Oui, bien sûr. J'entends bien que la meilleure façon de prévenir la rougeole, c'est le vaccin. Il n'y a pas d'autre façon de prévenir cette maladie-là.
Tout à fait.
Et puis,
c'est le vaccin.
Est-ce qu'un adulte qui attraperait la maladie, les symptômes ou les complications pourraient être plus difficiles, plus dangereuses?
Écoutez, pour l'instant, c'est surtout, on est inquiet pour les jeunes enfants de moins d'un an, mais toute personne qui attrape la rougeole a des risques de complications, d'hospitalisation. On parle de 10% des cas qui sont hospitalisés. Donc, le plus souvent, ce sont chez les enfants ou les adultes, des pneumonies, des otites, mais dans des cas plus sévères, donc un cas sur 1000, on parle de encéphalite, qui est à dire une atteinte au cerveau qui peut laisser des séquelles.
Oh là là. Oui, ce n'est pas à négliger, bien sûr. En ce qui a trait au traitement, bien sûr, quand on a contracté la maladie, est-ce que ça existe des traitements pour la rougeole?
Il n'y a pas de traitement spécifique pour les cas de rougeole. Il y a des traitements de support. Des traitements comme qu'on donne à l'hôpital pour supporter les symptômes, mais il n'y a pas de traitement spécifique, il n'y a pas d'antibiotiques ou quoi que ce soit contre la rougeole.
Et si on a un tout petit à la maison qui en souffre, est-ce qu'on peut apaiser ses douleurs? Est-ce qu'un bain, c'est souhaitable ou d'autres précautions?
Ben, écoutez, je pense que si c'est le cas, l'important c'est de voir c'est quoi l'état des symptômes, puis de voir avec le professionnel de la santé qui va diagnostiquer quelles sont les mesures à prendre là. C'est ça parce que c'est pas quelque chose qu'on traite tout seul à la maison, qu'on reste sans avoir une confirmation que c'est ça.
Mm-hmm. Docteur Kosowski, bon, vous parliez tout à l'heure des vaccins qui sont sécuritaires, qui sont efficaces. On y va à deux doses. C'est sûr qu'au Québec, là, on a un très, très beau profil. Il y a un bon taux de vaccination. On parle même que c'est à peu près 2% de non-vaccination. Donc, c'est une majorité des parents, des familles qui vaccinent leurs enfants. Mais en même temps, s'il y a des cas qui sont répertoriés, c'est quand même qu'il y a des enfants qui ne sont pas vaccinés. Comment on peut rassurer les parents et les encourager à faire vacciner leur enfant?
Ben, écoutez, il y a des parents qui sont inquiets, parce qu'ils lisent toutes sortes de choses, ils entendent toutes sortes d'informations, ils ont la difficulté des fois à faire la part des choses. Je dirais, c'est de poser leurs questions spécifiques aux professionnels de la santé. Les professionnels de la santé sont là pour ça. Il y a aussi des sites web crédibles avec l'information bien détaillée, donc que ce soit les sites gouvernementaux ou même des hôpitaux. Mais la source la plus simple et la plus fiable, ce sont les professionnels de la santé, que ce soit les infirmières qui vaccinent, les médecins, les professionnels sont là pour donner leur juste par rapport à leurs questions.
Et il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner. Si moi, bon, ce n'est pas le cas, mais si je n'avais pas reçu le vaccin, je pourrais y aller.
Tout à fait. Il n'est pas trop tard pour se faire vacciner. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou qui avaient des doutes, ou même ceux qui ont eu une dose mais qui n'ont pas pris la deuxième dose, parce que ça, on a quand même un certain pourcentage aussi de parents où on sait que la deuxième dose, pour toutes sortes de raisons, ils n'ont pas eu le temps d'aller la chercher. C'est disponible en tout temps dans les CLSC ou dans les cliniques.
Docteur,
et c'est gratuit.
Et c'est gratuit, et ça, c'est important de le dire. Si parfois, on a l'impression que c'est pas ou peu accessible, le vaccin, c'est offert. Là, on peut se renseigner également à notre CLSC et ils pourront nous diriger là, à savoir où c'est possible d'obtenir le vaccin.
Tout à fait.
Docteur Kosowski, tout à l'heure, vous disiez en 2011, il y a eu à peu près 700 cas de répertoriés. Là, on est à peu près à une dizaine. Je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter d'une éclosion de rougeole là, dans les prochaines semaines, les prochains jours.
Écoutez, on s'inquiète toujours de la rougeole, donc on ne peut pas dire qu'on ne s'inquiète pas. On est toujours en mode surveillance, surtout lorsqu'il y a des cas autour. On est rassuré par le fait que selon certaines études, on a des couvertures vaccinales qui sont quand même, on sent qu'il y a une bonne acceptation de ce vaccin avec les études qu'on a, mais il peut toujours avoir des gens, des groupes de personnes qui ne sont pas vaccinés ou ça peut circuler à l'intérieur de ces groupes-là. Donc, nous continuons à vraiment faire la sensibilisation et puis encourager les gens à prendre le vaccin parce que comme c'est une maladie très contagieuse, il faut savoir que ça prend une couverture vaccinale très, très élevée pour limiter la circulation. On parle qu'on essaie d'atteindre 95 % de couverture vaccinale. Donc, on ne peut jamais baisser les bras devant la rougeole. On est tout le temps en état de surveillance.
Est-ce que vous savez, Dr Kosowski, si le vaccin amène des symptômes chez les petits, des douleurs, est-ce qu'ils sont plus peut-être grincheux après le vaccin? Est-ce que les parents doivent être au courant de certaines choses comme ça?
Écoutez, c'est un vaccin très sécuritaire qui est donné depuis des dizaines d'années. Le plus souvent, il n'y a pas de réaction secondaire. Et lorsqu'il y en a, le plus souvent, on parle effectivement de petites fièvres, de rougeurs. Les enfants, effectivement, peuvent être un peu grincheux, mais ça se traite soit avec du Tylenol ou des compresses. Ça dure très peu longtemps.
En terminant, est-ce que l'on devrait exiger des preuves de vaccination chez les enfants avant l'entrée à l'école ou même en garderie?
Écoutez, il y a des provinces qui le font. Pour l'instant, ça serait vraiment plus au niveau du ministère de prendre ces décisions. Ce qu'on fait, par exemple, c'est que pour l'instant, déjà, les infirmières, avant l'entrée scolaire, vérifient les carnets de vaccination pour s'assurer de rattraper les enfants qui n'auraient pas eu leurs deux doses à 12 et 18 mois et offrir la vaccination aux parents. Donc, il y a un certain rappel qui est fait à l'entrée scolaire.
Bien, on va suivre ça de près, Dr Alexandra Kosowski. Vous êtes médecin responsable à la Direction de santé publique de l'Agence de santé de Montréal. Merci beaucoup. Bon après-midi.
Plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Bonjour, Dr. Salam Sakal.
Bonjour, Mme Paquette.
Vous êtes chef du service clinique d'endodontie et professeur titulaire à la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal. Est-ce que vos patients sont angoissés quand vous leur annoncez qu'ils devront avoir un traitement de canal?
Malheureusement que oui.
Donc, ça exprime ça, que ça a encore mauvaise réputation, le traitement de canal. On n'aime pas ça. Pourquoi donc on a tant de craintes autour de ce traitement-là?
Malheureusement, le traitement de canal a toujours eu des mauvaises réputations basées sur des expériences passées. Je pense l'expression de dire « je préfère accoucher qu'avoir un traitement de canal ».
Vous l'avez entendu, celle-là?
On l'entend souvent, puis malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, on peut prétendre que c'est vraiment des choses non justifiées.
Mm-hmm. Et vous allez être là pour nous le prouver. D'abord, c'est quoi, Dr. Sakal, un traitement de canal?
En principe, un traitement de canal, c'est, si on veut donner une explication rapide et simple, c'est le traitement de la pulpe. La pulpe, c'est le tissu mou qui se trouve à l'intérieur de la dent. Donc, il y a des synonymes à ça. On peut dire c'est un traitement de racine ou un traitement de canal ou un traitement endodontique. Un traitement endodontique, ça traite l'endodonte, l'intérieur de la dent.
OK.
Donc, la pulpe qui se trouve à l'intérieur de la dent, c'est ça qui... Le traitement de cette pulpe, c'est ça qui fait qu'on traite le canal.
Quand on est chez le dentiste et qu'il nous annonce cette nouvelle, je ne dirais pas bonne ou mauvaise, hein, je ne veux pas donner d'idée aux auditeurs, c'est pour régler quoi? C'est quoi le problème?
Le problème, c'est que cette pulpe ou ce tissu mou qui se trouve à l'intérieur de la dent, est, en principe, il est protégé par la dentine, le tissu dur. La minute que cette pulpe-là est exposée, soit par la carie, soit par un trauma, on casse une dent, soit par des restaurations profondes, mais là, malheureusement, cette pulpe-là, elle est atteinte par des bactéries, elle est enflammée, elle est infectée. Donc, la seule façon pour nous de pouvoir conserver cette dent-là, ça serait vraiment de l'extirper, de l'éliminer, de la traiter. Et là, bien sûr, avec tous les avantages que ça nous procure.
Mais le traitement de canal, est-ce que c'est enlever la dent ou la traiter?
Au fond, c'est traiter la dent, traiter l'intérieur de la dent, la source de cette douleur que vous ressentiez quand vous avez vraiment le besoin d'un traitement de canal.
Pour éviter de la perdre, si j'entends bien.
Exactement.
Ah,
l'objectif,
voilà.
C'est de vraiment sauver la dent pour qu'elle dure, qu'elle reste fonctionnelle le restant de la vie, comme toutes les autres dents.
Mais j'imagine, Dr. Sakal, que si la dent est très, très loin dans la bouche, bon, l'enlever, c'est une chose. Par contre, si c'est plus, bon, la palette ou devant, là, à ce moment-là, c'est préférable de la traiter. Et j'imagine que vous faites ce choix-là également?
La réponse, c'est non. La réalité, c'est que toute dent qu'on a en bouche, il y a un rôle. On peut faire exception, parlons des dents de sagesse, et croyez-moi, ça nous arrive souvent aussi de traiter des dents de sagesse quand leur fonction est établie, quand le besoin est là. Donc, il n'y a pas une dent qui est sans valeur stratégique en bouche. Chaque dent a une fonction différente, puis on a besoin de toutes les dents, comme les doigts de nos mains. Hein?
Ah ben ça, c'est assez intéressant. Donc, j'imagine qu'avant de recevoir un traitement de canal, c'est parce qu'on s'est présenté chez le dentiste et qu'on avait des douleurs.
Vraiment, la douleur, c'est la première ou la chose la plus fréquente pour nous faire consulter pour recevoir un traitement de canal. Mais comme je l'ai dit aussi, des fois, on peut avoir cassé une dent ou on peut avoir eu une restauration profonde ou une difficulté à mastiquer sur une dent.
Okay.
Ou des fois, on reçoit un coup, puis la dent change de couleur. Donc, c'est un signe que la pulpe ou le nerf, si vous voulez, est atteint. Donc, il faut vraiment intervenir.
Et maintenant, comment ça se passe, un traitement de canal?
Ça se fait vraiment d'une façon très conventionnelle qui ressemble beaucoup à n'importe quel traitement dentaire que vous recevez. Donc, bien sûr, après avoir établi le besoin, le diagnostic, via l'examen clinique et les radiographies, bon, mais là, on commence par bien anesthésier, geler la dent, donc elle est anesthésiée localement. Et par la suite, on place ce qu'on appelle la digue. La digue, c'est un champ opératoire qui isole la dent, donc qui empêche qu'il y a des bactéries qui rentrent de la salive à l'intérieur de la dent. Donc, la procédure reste vraiment aseptique. Et par la suite, votre dentiste va effectuer une petite cavité très conservatrice dans la dent pour avoir accès à la champ pulpaire, au nerf, à la pulpe.
OK. Et bien sûr, on sent rien, là.
Absolument rien.
Ça dure combien de temps?
Ça varie, parce que les dents, ils ont des formes et des racines différentes. Les dents antérieures peuvent aller d'un canal. En allant vers l'arrière, les dents postérieures, ils peuvent avoir 3 à 4 canaux.
Okay.
Donc, ça varie d'une dent à l'autre. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec les avancées techniques et technologiques, on est capable de faire ça la majorité des cas, dans une seule séance, qui peut varier entre 1 heure et 2 heures au plus.
Mm-hmm. Et des fois, une deuxième séance est nécessaire.
Des fois, ça arrive qu'on a besoin d'intervenir à 2 reprises, mais ça commence à être rare ces jours-ci.
Et les taux de réussite sont assez bons, hein? Je lisais 95% à peu près.
Je pense qu'on peut prétendre aujourd'hui facilement de se rapprocher entre 90 à 95, 97, selon l'étude que vous pouvez consulter, ce qui est un des taux les plus favorables qu'on peut trouver dans n'importe quel domaine de la santé.
Mm-hmm. Moi, Dr Sakal, je dois vous avouer quelque chose. Je suis une poule mouillée. Donc, si mon dentiste m'annonçait ça, j'aurais très peur. J'aurais besoin d'être rassurée. Quel genre de questions il est bien de demander à son dentiste avant un traitement de canal?
Bien, je peux vous assurer une chose, c'est que si vous faites un traitement de canal que vous étiez souffrante avant, soyez rassurés que vous allez sentir mieux après le traitement de canal.
Mm-hmm.
Déjà, vous allez être soulagé. Donc, déjà, c'est un très bon départ. Puis, les questions à poser, vraiment, c'est sûr, il faut savoir établir si la dent, déjà, elle est en bon état pour recevoir un traitement de canal.
Mm-hmm.
C'est sûr que si on juge que le pronostic ou les chances de succès ne sont pas très bons, mais là, c'est toujours question de faire valoir s'il n'y a pas d'autres alternatives qui sont plus prévisibles.
Oui.
Mais la minute qu'on établit que l'état de la dent nous permette de procéder, mais là, dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Cette dent-là va avoir un pronostic à long terme, mm-hmm. un retour à la fonctionnalité et à l'esthétique qui va être très, très satisfaisant. Donc.
Mm-hmm. Vous dites, on se sent mieux après, ça c'est rassurant. Combien de temps après, j'imagine qu'il y a de la douleur tout de suite après l'intervention?
C'est la douleur ici, j'aimerais vraiment utiliser le terme inconfort.
Okay. Okay?
Donc mm-hmm. ça va être, peut-être vous allez ressentir l'inconfort pendant quelques jours, une semaine ou deux après. Ce que vous êtes capable quand même de contrôler facilement avec des analgésiques de base, comme des petits Advil ou un Tylenol.
Oui.
Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose. Vous êtes très fonctionnel immédiatement après. C'est vraiment peut-être une des meilleures époques pour recevoir un traitement de canal.
Maintenant, peut-être la question qui intéressera tout le monde. Comment on prévient un traitement de canal?
La prévention commence vraiment par la base, donc des visites de routine que vous faites chez votre dentiste.
Oui.
6 mois, déjà, c'est un très bon départ. Donc, le fait qu'on intercepte une carie à sa phase initiale, c'est l'idéal, parce qu'avec ça, vous êtes certaine que vous allez le stopper avec un petit plombage.
Mm-hmm.
Peu coûteux, peu compliqué.
Mm-hmm.
Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je trouve que la deuxième façon de prévention, je pense qu'on n'en met pas assez, on n'en parle pas assez, c'est la protection à nos jeunes aujourd'hui des traumas. Donc, nos jeunes sont tellement actifs aujourd'hui avec les sports et les activités qu'ils font à tous les jours. Puis, je trouve qu'on n'en parle pas assez de la nécessité de porter les mouth guards ou les protecteurs buccaux.
Oui.
Et ça, c'est vraiment, je trouve, c'est une façon d'éliminer une bonne partie des cas qui nécessitent un traitement de canal causé par un trauma.
Oui, parce que vous le disiez tantôt, un coup reçu à la dent peut être fatal. Là. Ça peut être un risque de perdre cette dent-là.
On perd pas nécessairement la dent. On récupère vraiment une très bonne partie de ces dents-là, à moins que vraiment que la dent soit fracturée à plusieurs niveaux d'une façon irrécupérable. Mais on peut facilement récupérer un bon pourcentage de ces dents-là.
Et Dr Sakal, justement, toujours en lien avec la santé des jeunes, vous pensez quoi de la consommation du sucre?
Ben, c'est sûr que c'est une situation où on évite le maximum, puis on établit vraiment les besoins de tout ce qui est brossage et réduction de cette consommation. Mm-hmm.
Et si j'entends bien, le but, c'est de prévenir la carie, en fait. Hein?
Ben, c'est le début de tout problème qu'on a en bouche, à part les problèmes de gencives, bien sûr. Mais effectivement, le sucre, c'est notre ennemi, si vous voulez. C'est là qu'il faut qu'on commence notre prévention.
Mm-hmm. Suite à un traitement de canal, on peut se remettre à manger normalement à partir de quel moment?
C'est sûr que là-dedans, suite à un traitement de canal, il y a une certaine fragilité transitoire jusqu'à ce que la dent soit restaurée d'une façon permanente. Et donc, pendant cette période de transition, il faut faire attention d'éviter de manger des aliments durs, le temps que votre dentiste ait le temps d'avoir complété une restauration finale, qui des fois peut être un simple lompage, et qui peut aller jusqu'à la couronne avec ou sans pivot radiculaire.
On espère aimer le Jell-O.
Oui, si vous voulez.
Et puis, on peut continuer à se brosser les dents
sans
tout naturellement.
Problème. Vous revenez à vos habitudes, vous êtes très fonctionnel le jour même que vous quittiez le bureau. On fait juste un peu attention aux aliments durs en attendant que la dent soit restaurée d'une façon permanente.
Docteur Salam Sakal, je ne sais pas si vous avez réussi à nous rassurer en ce qui a trait au traitement de canal, mais du moins, c'était très, très informatif. Merci beaucoup. Puis quand même, je touche du bois pour éviter cette intervention-là.
Je ne vous le souhaite pas que vous en ayez besoin, mais si ça l'arrive un jour, soyez sans crainte. Ça se passe très bien. Puis
je vais vous appeler.
Sans problème.
Vous êtes chef du service clinique d'endodontie et professeur titulaire à la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal. Merci beaucoup de votre passage à l'émission.
Merci.
C'était Rémi Hermoso à la mise en onde, Marianne Paquette au micro, qui vous remercie beaucoup pour cette belle semaine. On sera de retour, bien sûr, lundi. D'ici là, vous pouvez nous réécouter à 17h en rediffusion et également nous suivre au www.canalm.org. On est également présent sur Twitter et Facebook. Profitez bien du week-end, reposez-vous, amusez-vous et prenez soin de vous. On se retrouve lundi. Bye-bye.